Salut à tous, je suis Victoria Guillaumont, j'ai 22 ans, et je vous souhaite la bienvenue sur Nouvel Œil. J'avais envie de partager quelques prises de recul à un âge où l'on se cherche, où l'on construit son chemin, dans un monde de plus en plus incertain. Un monde où les réseaux sociaux sont omniprésents, où les informations viennent dans tous les sens, et où trouver sa place est souvent une belle épreuve du combattant. Alors je pars à la rencontre de personnalités et de personnes inspirantes qui se sont posées il y a quelques années les questions que nous, on se pose aujourd'hui. Ces personnes qui, de près ou de loin, ont rêvé, ont osé, ont expérimenté et qui ont de jolis messages à nous transmettre pour nous aider à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Parce que tous, on a besoin de conseils, d'inspiration et de vagues d'espoir auxquelles se raccrocher. Alors le temps d'une trentaine de minutes, je vous invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour vous recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui vous êtes pour vous aider à trouver votre chemin et surtout à oser.
La raison d'être, c'est le moteur de l'engagement, c'est le moteur de dire mais j'existe pourquoi ? Je suis là pourquoi en tant que citoyenne ? Je suis là pourquoi ? Qu'est-ce que je peux apporter à mes enfants ? Qu'est-ce que je peux apporter à ma famille ? Qu'est-ce que je peux apporter à mon entourage ? Qu'est-ce que je peux apporter à mon entreprise ? Quel est mon impact en fait sur le monde, sur mon entourage, sur la vie, sur la société ? C'est ça la raison d'être. Qu'est-ce que je peux faire pour m'engager ? Pour l'intérêt général, pour le collectif, pour la société, c'est ça.
Inspirer un plus grand nombre à croire en l'humanité. C'est la mission que Cyrielle Ariel s'est donnée après avoir succédé deux événements bouleversants dans sa vie. En 2014, elle rencontre l'une des ethnies les plus persécutées au monde, les Rohingyas, dans le cadre de l'association Action contre la faim. Au retour de cette mission, elle est opérée en urgence et se réveille avec une prothèse au cœur. Ce cœur qu'elle a décidé de réveiller en donnant du sens à sa vie. Ces événements lui ont rappelé que nous n'avons pas le temps d'attendre pour agir. Alors elle est partie, avec juste cette profonde envie de sentir son cœur éveillé, en mettant en lumière des porteurs de solutions aux valeurs humanistes et écologistes. Elle est partie sillonner le monde à la rencontre d'ethnies, de penseurs et d'acteurs du changement. Aujourd'hui journaliste d'impact engagée sur les questions environnementales et sociales, Cyrielle nous prouve qu'avoir une détermination infaillible est la plus belle manière de répondre aux épreuves de la vie. Dans cet épisode, on revient sur son histoire, sur ses combats et sur l'importance de croire en nos idées. De ne pas, surtout pas, laisser s'essouffler nos rêves par la pression de la société. Mais d'y aller, d'agir, d'essayer et de ne jamais rien lâcher. Salut Cyrielle, je suis heureuse de pouvoir échanger avec toi. Ton parcours me fascine sur de nombreux points. J'aurais préféré qu'on se rencontre physiquement pour passer ce moment. Mais écoute, on va faire opérer la technologie. Donc pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, tu es une journaliste green et positive, une journaliste engagée, comme tu aimes à le dire. Mais personnellement, comment toi tu souhaiterais te décrire ?
Alors tout d'abord, bonjour Victoria et bonjour à tes auditeurs et auditrices. Comment je pourrais me décrire en tant que journaliste d'impact ? Green et positive, c'était plutôt ce que j'utilisais il y a 4-5 ans. Et plutôt journaliste d'impact, c'est-à-dire que quand je tends mon micro, il y a toujours une personne qui a des solutions. Je dis notamment des solutions pour répondre aux 17 plus grands enjeux de la planète, que sont les enjeux du développement durable des Nations Unies, les SDGs, comme les appellent nos amis anglo-saxons. Et en fait, ce sont effectivement des engagements qui ont de l'impact sur notre société, sur le plan social, sociétal et environnemental. Donc c'est comme ça que je me définis.
Quelle petite fille tu étais ?
J'étais une petite fille rêveuse et qui... adorer se donner de grands rêves avec de grands objectifs. Et cette petite fille, elle a vécu une envie à 8 ans, comme tu dis, elle avait envie de rencontrer son idole, son héros, et son héros c'était Michael Jackson. Et Michael Jackson est quand même l'origine et l'interprète de l'une des chansons les plus engagées qui soit pour moi au 20e siècle, c'est Heal the World. Soigner le monde, et ça vient aussi, ça devient un peu, on va dire, le mantra du nouveau président qui dit, d'ailleurs le New York Times a titré « Time to heal » et Joe Biden tweet d'ailleurs « A nation healed ». Et donc, c'est marrant parce qu'effectivement, on est toujours, on va dire, dans l'ère de la raison d'être, mais on est surtout dans l'ère de soigner aujourd'hui. Donc, on voit en fin 2020 que le mot soigner, le terme heal, revient dans nos débats, etc. Et depuis toute petite, effectivement, j'ai été admirative des engagements de ce chanteur qui voulait soigner le monde. Et à ma propre échelle aujourd'hui, j'essaye en tout cas de montrer les acteurs qui sont en train de le soigner.
Quels étaient tes rêves quand tu avais 20 ans ?
Toujours de rencontrer Michael Jackson, toujours de me dire que moi aussi je serais, j'espère un jour, une journaliste qui se sera faite toute seule avec ses propres engagements, ses ambitions, et comme Oprah Winfrey qui elle aussi a rencontré des personnes de tous horizons, des personnalités publiques, artistiques, etc. Et effectivement, je me disais, Oprah a interviewé mon Michael. Un jour, j'espère que je pourrais, voilà, moi aussi, voilà, je me rêvais en tant qu'Oprah Winfrey, voilà, okay. À 20 ans.
Et à cet âge-là, si on t'avait dit que ta vie ressemblerait à celle que tu as aujourd'hui et qu'on t'avait dit que tu aurais interviewé toutes ces belles personnes comme tu l'as fait, qu'est-ce que tu en aurais pensé et est-ce que tu aurais cru à tout ça?
Alors, pas du tout. Je ne savais pas ce que c'était qu'à 20 ans le développement durable. Enfin, pas beaucoup d'entre nous d'ailleurs. C'était il y a quand même, on va dire, il y a 13 ans. Loin de la COP21 encore. Bien que le GIEC, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, existe déjà depuis 1988. Et tous les scientifiques, ce consortium de 2000 scientifiques autour du monde nous alertent déjà sur le dérèglement climatique et surtout ses dangers pour la survie de l'humanité. Et bien évidemment de la biodiversité était déjà là, mais non, jamais j'aurais pensé faire ce métier-là, parce que je ne savais pas quelle femme j'allais être, je ne savais pas dans quel monde ou dans quelle société j'allais grandir, évoluer, et donc non, voilà.
Ok, et alors d'où te vient cette passion pour le journalisme et comment tu as débuté dans ce milieu-là?
Et bah, Oprah Winfrey est une journaliste, donc déjà inspirée par cette journaliste, et ça m'est arrivé en allant au Bangladesh en 2014, où j'ai fait mes premiers pas dans les camps de réfugiés humanitaires auprès des Rohingyas apatrides. Donc à partir de là, je me suis dit waouh, c'est bien de sortir de sa zone de confort, c'est bien de se rendre compte. On va dire des grosses problématiques humanitaires dans le monde, et je me suis dit, à mon échelle, j'aimerais un jour être utile, pouvoir me sentir utile auprès de toutes ces populations vulnérables, et comment en tant que communicante je peux faire pour relayer leur message, leur désespoir, et surtout comment on peut essayer de faire des ponts et les aider. Donc c'est vrai que c'est ces gens enfin, pour les aider de manière prioritaire, ce serait déjà de leur donner une carte de nationalité. Le problème, c'est que ni le Bangladesh ni la Birmanie ne veulent les reconnaître sur leur territoire. Et donc, pour le moment, ils sont toujours dépendants des institutions, notamment du Haut Commissariat des Réfugiés des Nations Unies, ou encore d'ONG comme Action contre la faim, etc. Donc, c'est juste déplorable. Et je me suis dit qu'à ce moment-là, en fait, j'avais envie d'agir. Et après, il y a un lien forcément, oui, avec ma maladie cardiaque.
On va reparler de tout ça, mais avant, j'aimerais savoir quelle a été... le déclic pour toi, parce que tu dis qu'on a tous un déclic qui va ou qui nous a éveillés. Quel a été ce déclic de ton côté ?
Eh ben, ce déclic pour moi, c'était Michael Jackson. Encore une fois, c'est en regardant ses clips, Heal the World, Man in the Mirror, qui fait partie de l'album Bad 1987. Donc c'est une année peut-être qui parle pas à tes auditeurs parce que vous êtes plus jeunes que moi, mais en tout cas c'est mon année de naissance, 87. T'es née en quelle année, toi, Victoria ?
98.
Ben voilà, 11 ans après, et bien 11 ans avant, il y a eu cet album sur lequel j'ai appris d'ailleurs l'anglais, parce qu'il me parlait beaucoup, les musiques vont déjà très bien, mais c'est surtout le clip engagé de Man in the Mirror de cet album qui m'a donné le déclic, et qui dit « si tu veux changer le monde, commence par changer la personne dans le miroir ». Donc en fait, ça revient à te dire, le changement doit passer par l'individu, c'est ce que disait Mère Teresa, c'est ce que disait Gandhi, et donc c'est ce que chantait à des milliards d'oreilles fin des années 80 Michael Jackson, et moi ça a été mon déclic à 26 ans. Quand j'ai réécouté, que j'étais en pleine quête de sens dans la rue, j'ai écouté cette chanson, elle m'a donné des frissons sur tout le corps, et je me suis dit, mais effectivement, et toi Cyrielle, que fais-tu ? Et c'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser, eh bien, aux messages de ce clip. Ce sont des messages humanitaires, donc du coup je me suis intéressée aux ONG, aux problématiques humanitaires, je suis allée frapper à la porte, j'ai constitué un dossier, c'est comme ça que je me suis retrouvée 8 mois plus tard dans les camps de réfugiés avec Action contre la faim en mai 2014.
Incroyable. Et c'était quoi ton projet alors ? de base.
C'était un projet, je peux pas en parler parce que c'est un projet qui a pas. C'était un projet pour mettre en lumière les enjeux humanitaires en télé. Voilà, tout simplement. Mais c'est un non-sujet parce que finalement ça donnait ça donnait lieu à mon opération du cœur, à ma renaissance, à mon blog et puis à tous les messages, à tous les interviews que j'ai pu faire depuis en 4-5 ans. Le but était de mettre en lumière ce qui changeait le monde, donc à commencer par les humanitaires. Mais on voit aujourd'hui dans notre société que ce sont les entrepreneurs sociaux, nos entreprises, nos startups, nos fondations, nos ONG, nos institutions. Et parfois aussi, voilà, il y a des lois aussi qui sont bien évidemment, qui sont là pour changer la donne. Mais donc ça regroupe beaucoup de choses au final. Maintenant, les gens qui veulent changer le monde, les gens qui veulent « heal the world », c'est tout le monde en fait. C'est toute la société à différentes échelles, que ce soit les citoyens ou en tant que dirigeant ou en tant que politique ou en tant que voilà, c'est à tous les étages.
Donc tu t'es retrouvée au Bangladesh à la rencontre des Rohingyas. Donc c'est une minorité musulmane apatride, victime de persécutions. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire là-bas?
Bah, brièvement, depuis 1982, par la junte birmane qui a pris le pouvoir en Birmanie, ils ont décidé que les Rohingyas ne venaient pas de Birmanie. Donc on leur a dit, bah rentrez chez vous. Sauf qu'au Bangladesh, on leur a dit, mais non, on ne les veut pas. Donc en fait, c'est une ethnie, c'est assez complexe. C'est pour ça que j'invite tes auditeurs et auditrices à te rendre sur le site du Haut Commissariat des Réfugiés pour parler. Mais effectivement, quand on est là-bas, ce sont des réfugiés qui n'ont absolument aucun avenir parce qu'en fait, quand t'as pas de carte d'identité, tu n'as absolument aucun droit. Tu n'as pas le droit de te marier, tu n'as pas le droit à l'éducation, tu n'as pas le droit non plus à de certificat de décès. Tu n'as absolument aucun droit. Donc en fait, tu es juste un invisible. Et donc quand on est invisible, on n'a aucune sécurité parce qu'on n'a aucun droit. Donc c'est la misère la plus absolue. Et il y a une pétition sur le site du Haut Commissariat pour signer, pour aider justement les aider à recouvrer une nationalité, notamment en Birmanie. Mais c'est un sujet très complexe qui n'est même pas résolu, donc je ne sais pas ce que je peux dire de plus en fait.
Et sur place, quelles étaient tes actions concrètement ?
Mes actions, c'était de faire des interviews, directeur pays en 2014, donc d'Action contre la faim, de comprendre les enjeux, de comprendre les travaux opérationnels de cette ONG sur le pays, c'est-à-dire l'accès à l'eau, l'accès aussi à la nutrition. Action contre la faim, c'est notamment pour lutter contre la malnutrition. Il se trouve que bien évidemment, cette population est touchée par la malnutrition. Il y a d'ailleurs ces 700 000 personnes, voire 1 milliard de personnes qui sont touchées par la malnutrition dans le monde. Donc là, c'était par exemple, voilà, de donner du Nutricette, donc de la pâte d'arachide à des enfants dans ces camps-là.
Ok. Donc à ton retour, deuxième épreuve que la vie met sur ta route, celle de ton opération du cœur. Quel lien tu fais de ces deux événements marquants, successifs et très forts ?
Bah, il se trouve que le lien est lunaire, c'est-à-dire que quand je vais me faire vacciner la veille de cette mission au Bangladesh de quelques jours, j'y vais pour me faire vacciner et on me décèle au stéthoscope, on me dit que j'ai un souffle-cœur. Et quand je rentre de mission, je vais voir un cardiologue pour la première fois de ma vie. J'ai à peine 27 ans, j'allais souffler mes 27 bougies. Et le cardiologue me dit, après avoir fait une échographie cardiaque, c'est grâce à ça que l'on décèle toutes les malformations cardiaques, une échographie cardiaque, c'est une naissance sur 100 dans le monde. Et c'est la première cause de mortalité au monde, les maladies cardiovasculaires, je tiens à le rappeler, et c'est la première cause de mortalité au monde chez la femme. Et là, on me dit, il faut faire des examens parce que ton corps est mal formé. Enfin, on voit que ton oreillette droite n'a pas sa taille normale. Et il se trouve que voilà, je suis née mal formée et qu'on me l'a appris à 27 ans. Et donc, du coup, on m'a posé un parapluie, ce qu'on appelle dans le jargon, pour me réparer, me soigner mon cœur, c'est-à-dire la membrane que je n'ai pas eue à ma naissance. Voilà. Et donc, effectivement, un double éveil. J'ai été sauvée en allant voir une population vulnérable. Donc, un gros déclic dans ma vie de jeune femme en disant, ça n'arrive pas tous les jours à ce que la journaliste qui va enquêter sur un sujet se retrouve elle-même, après avoir été confrontée à une misère absolue, soignée d'un point de vue sanitaire en disant, mais en fait, ça t'a juste sauvé la vie parce que ça a touché ton organe vital, qu'est le cœur. Donc, et puis voilà, c'est unique. Tout vient du cœur, les engagements, le « heal the world ». Donc, c'était un gros choc. Donc, c'est effectivement ce combo entre croiser les regards d'une des populations les plus vulnérables au monde, puis ensuite être confrontée à ma propre vulnérabilité face à la mort, un gros déclic, effectivement, émotionnel dans ma vie.
Gros déclic. Et donc, comment tu as décidé de changer ta vie suite à ces deux événements ?
Eh bien, j'ai lancé mon blog toute seule, from scratch, avec zéro business model, cyrielleariel.com, et j'ai commencé à faire le mouvement du cœur avec une personne engagée. Le mouvement du cœur avec les doigts, c'est bien évidemment le miroir de mon propre cœur, qui aujourd'hui est soigné, rafistolé avec une prothèse. Et c'est aussi le cœur de l'engagement, la solidarité, l'amour de soi, l'amour du vivant, l'amour des êtres humains. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire ça et effectivement à faire du journalisme d'impact, c'est-à-dire mettre en lumière l'impact, les enjeux, les engagements, la solidarité de notre société, donc via divers intervenants, c'est-à-dire ça pouvait être des personnalités comme Yann Arthus Bertrand, Pierre Rabhi, mais ça pouvait être voilà des entrepreneurs sociaux, donc c'est comme ça que j'ai switché. Je voulais mettre du sens, je voulais mettre du sens dans ma vie.
Tu as notamment pu interviewer le Dalai Lama et je crois que tu as eu une anecdote avec lui au moment de faire la fameuse photo avec le cœur. Est-ce que tu peux nous raconter cette anecdote ?
Bah raconte-la, Victoria, je peux pas la dire, là je suis toute rouge.
Bah, il me semble que tu lui as dit donc en anglais can we make love ? Donc
t'as eu ça où toi ?
Je sais plus, je me suis renseignée sur toi en préparant cette interview et je sais plus comment je suis tombée sur l'information, mais ça m'a fait rire.
Et ben c'est ça, quand vous croisez le Dalai Lama, ne lui dites pas can we make love, ça c'est voilà, un peu des lacunes quand on est un peu stressé devant le Dalai Lama avec le cœur qui bat et qu'on dit en fait faisons la fonte au cœur avec nos mains, et ben make love, oui ben non, make love en anglais ça ne veut pas dire faire un cœur avec les doigts, donc oui c'était un peu gênant, mais en même temps c'est une anecdote, j'avais quoi, 28 ans, toute jeune, toute fraîche, toute timide, et effectivement c'était ma petite anecdote, ouais. À ne pas refaire bien évidemment.
Oui. Ces interviews, tu les partageais sur ton site internet uniquement ?
Oui, c'est comme ça, c'est sur mon blog. Ce que je peux vous dire comme conseil, c'est que quand vous voulez faire quelque chose, être repéré pour faire quelque chose, bah, il faut vraiment le faire. Et donc moi, je me suis dit, c'est bien beau d'aller postuler dans une chaîne TV ou quoi que ce soit, mais si je ne montre pas ce que je sais faire, on n'ira jamais me chercher. Et c'est comme ça que j'ai décidé de me dire, bah oui, lance-toi Cyrielle et commence à faire ton blog et commence à faire tes interviews, à étoffer et à construire ton carnet d'adresses dans cette nouvelle dynamique, dans ce nouveau secteur. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé avec mon site internet, en effet en 2015.
Est-ce que tu avais, avant de commencer ce blog, anticipé la manière dont tu pourrais gagner de l'argent avec, ou est-ce que tu t'es un peu laissé porter par les événements, t'étais passionnée, tu t'es dit on va voir ce que ça donne, et les choses se sont faites petit à petit?
Écoute Victoria, ouais, je pense que je suis vraiment partie de, comment dire, j'avais aucune, je ne savais pas comment j'allais faire pour me créer mon business model. En tout cas, je visualisais beaucoup en me disant « il faut que je me fasse remarquer ». Et pour te faire remarquer, il faut que tu saches de quoi tu parles, que tu te spécifies. Et donc, je me suis dit, j'étais pas focalisée sur l'argent, j'étais focalisée sur le contenu. Et j'étais focalisée, voilà, sur les engagements de toutes les personnes qui étaient en train de dessiner notre nouvelle société, tous les acteurs. Et donc, j'étais véritablement en train d'étoffer la matière. Donc, c'est vrai que j'avais cette angoisse bien évidemment permanente au-dessus de moi en étant au chômage à l'époque, en me disant mais Cyrielle tu vas faire comment ? Mais c'est vrai que je suis vraiment partie comme tu dis de la deuxième fois, ça c'est mon cœur. C'est mon cœur qui a pris le pas, bien évidemment que mon loyer n'allait pas se payer tout seul. Mais je me suis serré la ceinture, j'ai travaillé comme une acharnée, j'ai vu aucun ami pendant 6 mois. Et j'étais avec mon ordinateur et aux quatre coins de Paris en 2015, pour aller interviewer et faire des posts tous les jours sur tous les réseaux sociaux, pour commencer à générer du clic et à me faire connaître. Et c'est comme ça que petit à petit, voilà, je me suis faite connaître et qu'après j'ai intégré Ushuaïa en 2016, ensuite en 2017 Europe 1, et puis là en 2020 BFM Business. Mais véritablement, c'est un travail minutieux, intense, durant plus de 6 mois, pour me faire un carnet d'adresses, me faire une nouvelle spécialité dans le secteur, qui a permis ensuite de générer des contrats. Et petit à petit, c'était des piges, c'était voilà. Après, ça a été des livres, après ça a été des conférences, après ça a été des modérations, après voilà. Donc ça s'est fait vraiment, petit à petit. C'est comme ça que tout aujourd'hui ce travail s'est étoffé. Mais c'est vrai que je suis vraiment partie en disant je fonce, j'y vais, de quoi je veux parler, qu'est-ce qui me motive, quels sont les gens que j'ai envie de rencontrer, qu'est-ce que j'ai envie d'entendre, quel est le contenu que j'ai envie de recueillir, que j'ai envie de faire partager aux communautés, aux personnes qui me suivent. C'était tout ça.
Et donc, quel conseil tu pourrais donner à ceux aujourd'hui, jeunes ou moins jeunes, qui aimeraient se lancer comme toi dans un projet un petit peu fou, un petit peu farfelu et qui n'a pas vraiment de sûreté, qui finalement se restreignent à la peur parce que il n'y a pas vraiment de business model bien précis, bien défini. Quel conseil tu pourrais leur donner à ces gens-là ?
Je ne sais pas si je peux donner des conseils parce que ça peut marcher pour certains et pour d'autres ça peut pas marcher tout de suite, etc. Je peux simplement dire qu'il faut essayer d'aligner ses convictions, ses valeurs, sa passion avec son travail, parce que le travail c'est ce qu'on fait au quotidien. Moi je compte plus mes heures, je vis par ma passion. J'ai de la chance, aujourd'hui j'en vis, mais effectivement j'ai pas connu des heures toujours très 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 glorieuses, très positives. J'ai eu beaucoup de down, bien évidemment, des remises en question, mais en tout cas c'est vrai qu'il y a une chose qu'on peut pas m'enlever, c'est que j'y ai toujours cru. Et c'est vrai que mes proches, mes plus proches peuvent me dire, c'est vrai que tu n'as jamais lâché. Je suis toujours restée dans cette direction. Je veux rencontrer les gens engagés. Je veux rencontrer les gens qui font de l'impact. Je suis toujours restée. Je me suis toujours s'entourée de personnes dans le secteur dans lequel vous voulez évoluer. Ça, c'est primordial. Ça peut vous donner des idées. Ça peut donner en place des collaborations. Et après, peut-être des projets. Donc, du coup, des business models. Vous créez du contenu. Vous créez des podcasts. Vous créez un blog. Vous créez des chroniques. Vous proposez des chroniques. Vous proposez des livres. Vous proposez des tribunes. Vous proposez des journaux. Vous proposez des articles. Vous proposez des startups, des projets d'entrepreneuriat. Enfin, peu importe. Après, moi, je suis communicante. Donc, c'est mes formats à moi. Mais peu importe après le sujet que vous voulez mettre. En tout cas, entourez-vous, apprenez rendez-vous avec toutes les personnes dans les domaines dans lesquels vous voulez évoluer. Et après, laissez germer vos idées, laissez les germer, mais c'est en faisant des rencontres, en partageant vos envies que vous allez créer tout ça et ça va vous apporter des solutions.
Fabuleux, incroyable. Qu'est-ce que tous ces voyages, ces missions et ces rencontres, elles t'ont appris sur l'humain ?
Que l'homme était différent, que l'humanité est très diverse, c'est une évidence que les codes d'une occidentale comme moi, quand elle voyage en Éthiopie, au fin fond du Kenya, où ils parlent Swahili, ou alors avec les Maasai, ou alors en Éthiopie, etc., on n'a pas du tout on a juste le dialogue du regard et du sourire, et du rire. Et en fait, la connexion entre les hommes, on n'est pas obligé finalement de savoir parler le même langage, enfin en tout cas la même langue. Bon, en tout cas, effectivement, il y a une connexion qui peut se faire entre nous par le regard, le rire et il y a une complicité qui se crée et ça n'a pas de valeur. Et ça, j'ai ressenti ça forcément là dans les pays où je pouvais pas parler la même langue et on peut très bien voilà le côté c'est là où pour moi on est vraiment dans la pureté de intrinsèque de notre espèce. C'est quand on peut pas forcément dialoguer avec le langage, avec la parole. En tout cas, on peut se connecter avec notre regard, notre sourire, et puis même se prendre dans les bras. Et ça m'a beaucoup touchée. Donc, mais il y a pas de ce que je peux apprendre sur l'homme. Non, c'est pas sur l'homme. C'est qu'on est confronté quand on voyage, quand on sort de sa zone de confort et de ses moyens de communication, eh bien on apprend à se reconnecter, à se connecter différemment à notre espèce, avec d'autres hommes, etc. Et ça, je trouve ça fabuleux parce que on voit que pour nous faire sortir de nos émotions, eh bien ça passe pas forcément par le langage. Ça peut passer voilà par de la contemplation, par de la vision, par le regard, par le sourire, et ça n'a pas de prix aussi pour essayer de communiquer différemment, et ça fait du bien aussi.
La première phrase qui est mise en avant sur ton site, c'est quelle est votre raison d'être ? Qu'est-ce que c'est une raison d'être ? Et comment on découvre personnellement qui elle est pour nous ?
Alors, sur mon site internet, c'est relatif au business. C'est surtout quelle est la raison d'être, et c'est par rapport à une loi. J'en parle chaque semaine dans mon émission Objectif Raison d'être sur BFM Business. C'est la raison d'être des entreprises. C'est effectivement, c'est la raison d'être qui peut être inscrite dans les statuts de l'entreprise. C'est pour marquer leur engagement sociétaux, sociaux ou environnementaux. Mais la raison d'être, c'est hyper intrinsèque. C'est la question que je me suis posée il y a 5 ans. C'est surtout en anglais, what's my calling? C'est le call to action, c'est le purpose en anglais. C'est en fait, quelle est ma raison d'être à moi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie? Et c'est aussi, qu'est-ce que l'entreprise aujourd'hui veut faire pour la société? La raison d'être, c'est le moteur. C'est le moteur de l'engagement, c'est le moteur de dire « mais j'existe pourquoi ?» Je suis là pourquoi en tant que citoyenne ? Je suis là pourquoi qu'est-ce que je peux apporter à mes enfants ? Qu'est-ce que je peux apporter à ma famille ? Qu'est-ce que je peux apporter à mon entourage ? Qu'est-ce que je peux apporter à mon entreprise ? Quel est mon impact en fait sur le monde, sur mon entourage et sur la vie, sur la société ? C'est ça la raison d'être. Qu'est-ce que je peux faire pour m'engager ? Pour l'intérêt général, pour le collectif, pour la société, c'est ça.
Ok, parfait, génial. Comment tu le vois, le journalisme de demain, toi ?
Le journalisme de demain, c'est comment te dire d'un point de vue objectif. Je pense que j'espère qu'il y aura de plus en plus de journalisme, on va dire d'impact dans nos médias généralistes, parce que et ça commence, hein, ça commence à se diffuser. Mais c'est voilà l'actualité aujourd'hui, c'est pas c'est relevé bien évidemment tous les faits. On va dire négatif malheureusement de notre société les choses enfin bon mais c'est je pense que c'est aussi et ça se fait de plus en plus et je le vois de parler des impacts positifs sur la société les créations d'emplois les élans de solidarité les gestes de solidarité les innovations les pionniers dans la tech de l'engagement dans tous les secteurs je pense que voilà c'est mettre en lumière ce qui marche en plus de bien évidemment de tous les faits anxiogènes et moroses comme le confinement comme les attentats comme les décapitations c'est aussi mettre en lumière aussi ce qui se fait les créations d'emplois la solidarité voilà c'est tout ce que je viens de dire l'innovation sociale sociétale mettre en lumière les gens qui font bouger les lignes donner la parole à ceux qui ont de l'espoir ceux qui changent leur entreprise vers un modèle plus vertueux. Donc c'est ça aussi, et je pense que c'est en train de se faire aujourd'hui.
Super. On va terminer par des questions un peu plus personnelles. À quoi elle ressemble une journée de Cyrielle Ariel ?
Eh bien, il n'y a pas une journée qui se ressemble, tu vois. Là, je prends plaisir, nos échanges sur Instagram, à répondre à un podcast, à une jeune fille engagée, enthousiaste que tu es, Victoria, en podcast. Après, ça va être me plonger dans la loi et préparer mes émissions par rapport à mes interlocuteurs. Comme la semaine prochaine, je reçois dans mon émission la ministre de l'économie sociale et solidaire et responsable, Olivia Grégoire. C'est aussi travailler à mon troisième livre qui sort au mois d'avril, c'est-à-dire voilà autour de la raison d'être de nos sociétés, où j'ai fait l'interview de grands dirigeants du CAC 40 aux entrepreneurs sociaux, en passant par des artistes, Samuel Le Bihan ou encore des personnalités engagées comme Yann Arthus Bertrand. C'est demain participer à un séminaire en tant que Young Leaders engagés de l'Institut Aspen. Et rencontrer d'autres différents entrepreneurs français engagés, donc on va tous se rencontrer. C'est aussi faire du sport aussi parce que je suis une hyperactive et j'ai besoin aussi de ma demi-heure ou de mon heure de sport. Et puis c'est démarcher d'autres entrepreneurs, c'est préparer mes émissions. Enfin voilà, c'est tout ça, un peu condensé. Le sport, la préparation, les émissions, d'autres projets, d'autres rendez-vous, et c'est me nourrir de toutes les nouveautés, de tous les communiqués que je peux recevoir. C'est voilà, et puis co-construire mes prochaines interviews, qui seront mes prochains intervenants, et puis aussi voilà les conférences que je vais donner dans des entreprises, c'est tout ça.
Tu arrives à trouver un équilibre et à prendre du temps pour toi au milieu de tout ça ?
Oui, j'arrive à trouver un équilibre et surtout, ce qui est primordial pour moi, c'est avoir un bon nombre d'heures de sommeil et quelque chose qu'il ne faut absolument pas négliger. Je pense que c'est véritablement le sommeil. Quand on dort bien, qu'on fait des nuits apaisées et apaisantes d'ailleurs, on est bien le lendemain, on est de bonne humeur. Je médite aussi, je me mets de plus en plus à la méditation le matin, le soir, et ça me permet également. Donc entre le sport, la méditation et un bon sommeil, ça m'aide à avoir un bon équilibre. Puis je bois pas d'alcool, je ne fume pas, je pense que ça aide aussi.
Forcément oui. Une question très large, c'est quoi le bonheur pour toi ?
Le bonheur pour moi, c'est, je peux pas répondre à cette question. Je peux m'inspirer de Thich Nhat Hanh, qui est un bouddhiste, qui, je suis en train de lire un livre de lui qui s'appelle Retrouver la paix intérieure via son enfant, son enfant intérieur. Et pour lui, le bonheur, c'est le lâcher prise. Voilà, mais c'est très, c'est compliqué à expliquer en quelques secondes. Mais le bonheur, c'est être aligné avec ses propres convictions et valeurs, tout simplement. Et comme on est tous des individus différents, il n'y a pas une réponse universelle. Pour toi, pour d'autres, ça va être rester en France et je sais pas moi, avec un régime alimentaire particulier. Bah pour d'autres, ça va vouloir ses envies d'évasion à l'autre bout du monde et manger que des végétaux. Bah ça, par exemple, c'est plus moi. Voilà. Mais le bonheur, voilà, pour moi, c'est voilà, c'est différent. On est tous différents. Pour d'autres, ça va être passer des heures en montagne. D'autres, ça va être des heures sous l'eau. Moi, j'adore, voilà. Moi, c'est passer faire de la plongée sous-marine. Pour d'autres, ça va être monter faire de l'escalade, faire de l'alpinisme. C'est différent. C'est juste être aligné et pouvoir être entouré de ceux qu'on aime, de respecter ses alignements. Ça passe aussi par l'alimentation, son équilibre, etc. Et faire du bien autour de soi, se sentir utile, je pense que c'est important d'avoir un sentiment d'utilité. Ça, je pense que c'est intrinsèque à chaque personne, mais ça peut être via le boulot, via le personnel, ou via, avec ses enfants. Mais en tout cas, avoir un sentiment d'utilité, être aligné avec ses valeurs, prendre du temps pour soi et pouvoir faire ses propres passions, ses propres activités qui nous permettent de nous faire du bien, tout simplement. Et être entouré de ceux qu'on aime et avoir un entourage bienveillant, ça c'est sûr.
Dernière petite question, la question signature du podcast. Quel conseil tu voudrais donner aux jeunes d'aujourd'hui, à ma génération ?
Eh bien, j'ai envie de vous dire déjà merci d'être là, merci d'être une génération qui est à l'écoute de nos plus grands enjeux. Je pense que c'est vous êtes quand même tous ceux qui avaient 20 ans aujourd'hui. Vous ne pouvez pas ne pas être conscient de tous les fléaux de notre société. On vous parle de dérèglement climatique, de crise sociale, de gilets jaunes, de confinement, de décapitation. On vous parle de... Vous êtes au courant de tout. Vous êtes ultra connecté, bien plus que notre génération et même celle de nos parents. Et en fait, du coup, vous avez le pouvoir. Et votre pouvoir, en fait, c'est votre cœur et votre cerveau. C'est-à-dire que votre cœur est touché, du coup, vous pouvez mettre en exergue des projets pour résoudre les fléaux de notre société. Vous avez le pouvoir aujourd'hui de changer... la société, de diffuser vos engagements, vos convictions. Donc vos conseils, c'est soyez alerte, développez votre esprit critique, ne soyez pas avec la même chaîne d'infos, le même canal, ayez une diversité véritablement pour développer votre esprit critique et l'approfondir de tous nos différents médias, de tous nos différents formats et plateformes pour vous enrichir véritablement et prendre la température de ce qu'est véritablement notre société. Et puis voilà. Et puis allez-y, lancez-vous. Allez là où vous vous sentirez peut-être le plus utile, le plus juste, le plus légitime. Et puis allez-y, on a confiance en vous également pour nous aider à heal the world, à soigner cette société et on a besoin de vous.
Très bien, merci pour ce petit mot de la fin et encore une fois c'est très frustrant pour moi de faire ça à distance parce que j'aurais adoré te rencontrer et échanger avec toi physiquement mais écoute c'était très bien quand même et je te remercie pour ce temps.
Merci à toi ma chère Victoria, je remercie tes auditeurs, tes auditrices, merci à toi pour ce que tu fais, c'est très important et ça me rappelle moi il y a 5-6 ans quand je me suis lancée et c'est pour ça que voilà on a réussi à trouver un créneau et je te tiens à te féliciter parce que tu fais ça en parallèle de tes cours, merci à toi, on se rencontrera avec grand plaisir dès qu'on pourra enfin de nouveau circuler, au plaisir de te rencontrer même chez BFM Business, que tu comprennes ce que c'est que la raison d'être, donc je te fais une invitation pour plaisir en 2021, on reste en contact et puis au plaisir d'écouter ton podcast et continue comme ça et merci à toi.
Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère qu'il t'a inspiré, rassuré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Pour suivre les aventures du podcast, je t'invite à t'abonner pour être informé dès qu'un nouvel épisode sort. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram avec le nom du podcast. N'hésite pas à m'écrire si tu veux me faire part de tes retours, de tes impressions et de tes conseils, j'y répondrai avec grand plaisir. Aussi, si tu as aimé l'épisode et que tu souhaites m'encourager dans l'aventure, tu peux me mettre une petite note et un commentaire sur Apple Podcast. C'est un peu le truc chiant qu'on se dit qu'on ira faire plus tard, mais ça prend vraiment 2 minutes et ça m'aide beaucoup, beaucoup. Je te dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode. En attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.